Un grand plaisir pour nous de vous visiter. Je vous ai déjà dit qu'on se sentait chez nous ici. Et on est vraiment à l'aise de participer au culte avec vous pour célébrer finalement la mort et la victoire de Jésus-Christ. Alors, mon cher Benoît, ce matin, on va retrouver tout ce que tu as dit dans mon message. Alors, je me disais, bien, il est juste, on voulait s'en aller tous les deux. On a dit, il a tout dit ce que je devais dire. Mais bon, il est tôt encore, fait que je vais vous apporter quand même ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. C'est concernant la parabole du Samaritain, qui est une histoire que nous avons tous un jour ou l'autre entendue, ou surtout lue. C'est une histoire racontée par Jésus qui a pour but de nous rappeler que nous devons aimer notre prochain, et ce, peu importe qui il est, y compris ceux qui sont différents de nous et ceux que nous n'aimons pas. Il est écrit au verset 25 du chapitre 10 de l'Évangile de Luc que Jésus était en train d'enseigner ses disciples lorsqu'un docteur de la loi se leva et dit pour l'éprouver, le mot éprouver ici, c'est dans le but de le piéger, eh bien, va lui dire, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et ce qui est intéressant, c'est que dans les nouvelles versions, le verbe « hériter » n'apparaît plus, on dit « recevoir la vie éternelle ». Mais en fait, on doit dire merci à nos vieux traducteurs, parce que le mot « hériter », c'est vraiment le mot qui correspond à la vie éternelle, parce que l'hériter, quand on hérite de quelque chose, d'un bien, de l'argent, de la part de quelqu'un qui est décédé, eh bien, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et le mot « hériter », ici, c'est dans le même sens. Hériter de la vie éternelle, c'est que Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritions pas. Et ce qu'il nous donne, c'est pas une somme d'argent, c'est pas une maison, c'est la vie éternelle. Vous direz « Amen » à ça ce matin. Oh là, attendez, j'ai entendu juste une voix. Est-ce qu'on vous dit « Amen » à ça ce matin? Ah, parfait. Parfait, voilà. Et la façon dont le docteur de la loi a posé cette question nous laisse à penser qu'il croyait qu'il devait faire quelque chose pour recevoir la vie éternelle. Sinon, il n'aurait pas demandé à Jésus ce qu'il devait faire. En fait, sa question démontre qu'il ignorait que nous ne pouvons rien faire pour hériter la vie éternelle, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose, pour recevoir la vie éternelle. En fait, sa question démontre qu'il ignorait ce que nous ne pouvons rien faire pour hériter la vie éternelle. Je suis en train de me répéter, moi, là. Est-ce qu'il y a un problème avec le micro? Il y a un problème avec le micro? OK, parfait. Alors, Jésus demande au docteur de la loi, verset 26, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? » Alors, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Fais cela et tu vivras éternellement. Fais ça sous-entend. On ne peut pas dire sauver un jour, sauver toujours. Malheureusement, je ne trouve pas ça. C'est une déduction qu'on fait en théologie, mais je ne trouve pas ce verset-là dans la Bible, parce qu'il y a deux versets finalement qui rajoutent quelque chose. C'est Jésus dans Jean chapitre 8, verset 51, qui dit « Celui qui oublie ma parole ne mourra jamais. » Et aussi, dans Hébreux, hein, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et quand vous lisez les versets qui tournent autour du salut, vous allez réaliser une chose, il y a toujours la sanctification qui est rattachée. Donc, quelqu'un qui démontre vraiment qu'il est sauvé, quelqu'un qui démontre finalement qu'il est né de nouveau, hein, parce qu'il y a deux classes de chrétiens dans les églises, chrétiens de nom et les chrétiens nés de nouveau. Alors, celui qui est vraiment né de nouveau, eh bien, il va essayer d'imiter le Seigneur Jésus-Christ et il va faire en sorte, finalement, de s'efforcer, hein, c'est ce que Paul dit, faites tous vos efforts pour, finalement, arriver à vivre comme Dieu nous demande de le faire. Et c'est facile pour nous, d'une certaine façon, puisqu'on n'est plus seul maintenant pour vivre une vie que Dieu nous demande, puisque on a celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui habite en nous maintenant par sa mort sur la croix. Alors, gloire à Dieu pour cela. Et là, la vie éternelle, eh bien, le Seigneur, il dit, écoute, oui, pas de problème, fais ce que je te demande, aime ton prochain comme toi-même, et ainsi de suite, et tu vivras. Verset 29, mais voulant se justifier, le docteur de la loi dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Et sans continuer, si j'arrêtais là, si je posais la question, si je vous distribuais des petits papiers ce matin, je vous dirais, je vous demandais, écrivez-moi, selon vous, qui est votre prochain? Intéressant, ça. Qui est mon prochain? Ah oui, hein? Alors, il lui dit ceci, c'est exactement, il lui dit, qui est mon prochain? Autrement dit, Jésus, tu dois que je dois aimer mon prochain, dis-moi qui est mon prochain et qui ne l'est pas. C'est-à-dire, dis-moi qui dois-je aimer et qui ne dois-je pas aimer. Jésus va alors faire quelque chose qu'il faisait régulièrement, il va lui raconter une histoire. Il lui dit au verset 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Jésus est très précis ici, bien-aimé. Il dit que l'homme a été volé, battu, dépouillé et laissé pour mort. Pourtant, il y a quand même quelque chose que nous ne savons pas sur cet homme. Par exemple, nous ne savons pas d'où il venait, ce qu'il faisait sur cette route et quel était son nom. Il semblerait que la seule chose que Jésus voulait nous faire savoir sur cet homme, c'est que c'était quelqu'un qui avait non seulement besoin d'aide, mais qui avait surtout besoin que quelqu'un lui vienne en aide. Et Jésus est en train de montrer à ceux qui l'écoutaient, et surtout aux docteurs de la loi, qu'il y avait seulement deux manières de réagir lorsque vous rencontrez quelqu'un dans le besoin. Premièrement, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans le besoin et que vous devez décider s'il est votre prochain ou non, vous risquez dans un premier temps de rationaliser la situation, c'est-à-dire commencer à raisonner, ce qui risque de vous amener à vous demander si vous devez intervenir ou non, si ça vous regarde ou non, et aussi vous ne devriez pas vous mêler de vos affaires. Nous, faites bien aimer, on n'a pas à juger des gens qui ne se sont pas occupés du Samaritain, parce qu'un jour ou l'autre, nous avons tous fait cela, rationaliser une situation dans notre esprit, c'est-à-dire raisonner. Et plus nous raisonnons avant d'intervenir pour aider quelqu'un, moins on a envie de le faire. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien, on peut se dire, ben ouais, moi, je suis peut-être pas appelé à ça ce matin, peut-être que Dieu appelle quelqu'un d'autre qui va venir après moi pour aider cette personne-là. On rationalise. Et je vais vous donner un exemple. Il y a, à l'automne 2023, on a eu un automne épouvantable. Hein? Il pleuvait. Bon, vous allez me dire, on a ça dans les quatre saisons, mais en automne, il fait pas chaud en plus, il vente, et puis voilà. Et j'étais dans la boutique de ma fille, et juste en face de la boutique de ma fille, c'est la commune de JPI qui est là. Donc, les gens vont là pour la carte d'identité, pour tout, ainsi de suite. Et je vois une dame qui marche sur le trottoir et puis je la vois, elle est habillée, on aurait dit qu'elle venait de se lever, elle avait à peu près entre 70 et 80 ans, elle était presque en pyjama, quoi, avec une, on appelle ça une doudoune chez nous, là, vous savez, il faisait pas chaud, donc quelque chose qui avait du duvet. Alors elle marchait, puis elle quitte le trottoir pour aller à la commune. Et moi, je continue à parler avec ma fille et 20-25 minutes plus tard, je la vois revenir. Et je la vois sur le trottoir qui regarde à gauche, à droite. Elle ne semble pas savoir quel côté elle doit prendre pour retourner. Alors, moi, j'ai dit, je vais sortir. J'ai ma fille, écoute, je vais te laisser. Je vais partir. J'ai quelqu'un. Je vais aller voir cette personne-là. Je vais la trouver. Et puis, je lui dis, madame, est-ce que je peux vous aider? Ben, elle dit oui. Elle dit, écoutez, c'est la première fois que je viens à Juppé. J'ai dû venir ici pour faire régulariser mes papiers. Elle dit, en fait, moi, je suis une Belge. Qui habitait dans les pays de l'Est pendant 40 ans. Je viens de perdre mon mari, mes trois enfants sont en Belgique, donc je reviens les retrouver, mais j'avais aucune carte en règle, donc voilà, OK. Alors, elle me dit, oui, je voudrais prendre le bus. Ben, j'ai dit, vous tournez à votre droite, vous avez la rue principale à 100 mètres, tournez à gauche et vous allez avoir l'arrêt de bus. Ah, elle m'a dit, merci beaucoup. Mais moi, en fait, pourquoi j'ai donné toutes ces informations-là, c'est parce que je voulais pas aller plus loin dans mon aide. Je rationalisais. J'avais une grosse journée à faire. Alors, je me disais, en réalité, je l'ai pas dit ouvertement, mais j'avais pas de temps à perdre avec elle, quoi. Voilà. Elle aurait cassé ma journée, mon horaire. Alors, je vais chercher ma voiture. Et le Seigneur est bon, hein? Quand le Seigneur a décidé quelque chose. Alors, moi, je prends le même chemin qu'elle. Je vais prendre le même chemin qu'elle avec ma voiture. Et qui je vois? Finalement, sur le passage à piétons, je vois la madame, toute tremblante, qui ne peut pas traverser parce que les voitures, ben, il n'y a personne qui veut la laisser passer, personne qui veut freiner. Alors moi, je freine, je décide de freiner, je mets mes feux d'urgence, les voitures attendent en arrière, je mets mes feux d'urgence, je sors de la voiture et puis je vais la chercher. J'ai dit, madame, je vais vous aider à traverser la rue. Alors elle me dit, j'ai dit, vous habitez où? Ben, elle dit, j'habite à Liège. Ah ben, je lui ai dit, écoutez, Il fait froid, tout ça. J'ai dit, est-ce que vous voulez que j'aille vous reconduire? Ah, ben, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, j'embête dans ma voiture. Et j'ai dit, maintenant, où se trouve votre maison? Ce qui est normal, hein, si je veux partir avec ma voiture. Ben, elle dit, écoutez, je connais pas vraiment la rue, parce que ça fait pas longtemps que je suis ici. Mais elle dit, je vois la Meuse de ma maison. Mais la Meuse, ça part de la Hollande, ça va jusqu'en France. Hein. Moi, j'avais pas le temps de parcourir tout ce chemin-là. J'ai dit, écoutez, vous voyez la Meuse de votre maison comme ça ou comme ça? Ben, elle a dit, oui, c'est de l'autre façon. Mais je dis, on va traverser d'abord, on va traverser de l'autre côté. Et là, alors je longe la Meuse et puis je parle avec elle. Et puis à un moment donné, elle me dit, ah, voilà ma maison. Alors, j'avais roulé à peu près 15 minutes. Donc, ben, j'ai dit, écoute, c'est magnifique. Maintenant, vous êtes arrivé, je suis content, voilà, tout ça. Alors, j'ai dit, on se laisse, et puis, content de vous avoir connu. Elle m'a dit, non. Elle dit, je sors pas de la voiture. Ah oui. Avant de me dire ça, elle fouille dans sa poche, elle me sort un billet de 100 euros. Ben, j'ai dit, madame, elle dit, c'est pour vous. J'ai dit, madame, je suis pas un chauffeur de taxi. Moi, j'ai dit, je suis ici. Je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de le faire, quoi. Elle dit, non, vous, monsieur, vous le prenez. J'ai dit, non, je le prends pas. J'ai dit, écoutez, bon. Alors, elle me dit, monsieur, ne regardez pas ma tenue vestimentaire, je suis une personne très riche. Alors là, quand elle a dit très riche, j'ai quand même pris, hein. Ben, sinon, je t'ai pris pour passer la journée-là, hein. On est en train de débattre, bon, voilà. Et je l'ai pris, elle est sortie, je ne l'ai jamais revue, bien sûr. Et en m'en allant, écoutez, il y a un petit sourire pour revenir à la maison. Il y a un petit sourire qui m'est venu sur le coin de la bouche. Je me dis, ah, Seigneur, tu viens de me faire un clin d'œil, quoi. La compassion des gens. Comment on manque de compassion des gens, bien-aimés. Et là, c'est un pasteur qui vous parle, hein. On reste des êtres humains. Et de manifester l'amour de Jésus-Christ, là, c'est pas juste de dire, Seigneur, que à ton frère ou à ta soeur, que Dieu te bénisse. C'est pas de dire, mais écoute, oui, t'as pas personne. Écoute, si t'as besoin de quelqu'un, tu m'appelles. C'est pas si t'as besoin, tu dis, t'as entendu une annonce, il y a un déménagement, il y a quoi que ce soit. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu feras à ma place? Et tu t'impliques. Mais c'est vrai qu'il y a un combat, c'est un combat spirituel aussi, de pouvoir à chaque jour, à chaque moment, s'oublier pour penser à l'autre. Et ça m'a donné une bonne leçon. Ça m'a payé, ça m'a pas coûté grand-chose, ça m'a rapporté de l'argent en plus cette fois-là. Mais en même temps, je me disais, Seigneur, tu m'as fait un clin d'œil, hein? Je suis convaincu que cette femme-là, c'était un ange, quoi, que tu as placé sur mon chemin. Je suis convaincu. Seigneur, c'est surnaturel ce qui s'est passé là. J'ai jamais revu cette femme-là, jamais. Pourtant, elle est à 15 minutes de chez moi, quoi. Et je parle souvent le nom de la Meuse, ainsi de suite. Mais je l'ai jamais revue, jamais eu de nouvelles, et ainsi de suite. Maintenant, je vous dis pas que moi, je suis quelqu'un qui fabule puis que je vois des apparitions à droite et à gauche. Moi, c'est ce qui m'est venu dans mon cœur, quoi, dire, écoute, peut-être que Dieu t'a placé un ange, t'a donné un bon enseignement ce matin. Et puis voilà. Et la parabole du Samaritain, il y a plusieurs buts pour lesquels Jésus la donne cette parabole-là. Mais on va continuer, en tout cas. Alors, l'histoire que nous allons voir se divise en deux parties. La première partie commence au verset 31. Réellement, par verset 31. Or, un prêtre passait par là par hasard. D'abord, déjà, par hasard, on doit se poser des questions, puisqu'on nous a dit, on nous a enseigné que le hasard n'existe pas. Et c'est intéressant qu'il se trouve dans la Bible. Voilà. Mais le hasard de Dieu, c'est le hasard de Dieu, en fait. Donc, c'est ce que Dieu avait déterminé depuis toute éternité. Voilà ce qui arrive. Alors, vous écoutez cette histoire et un vent d'optimisme envahit votre cœur. Vous êtes soulagé, vous vous dites, « Oh, génial, heureusement que ce prêtre passait par là, c'est un saint homme, c'est quelqu'un qui aime Dieu, il va sûrement s'arrêter et aider ce malheureux. » Et Jésus rajoute, « Mais quand il aperçut l'homme, il traversa de l'autre côté de la rue. Pourquoi le prêtre a-t-il agi ainsi? Il nous est difficile de le juger parce que lorsque je me mets à réfléchir, il a fait à peu près la même chose que j'aurais pu faire avec la dame. Et vous avez sûrement, ça vous est sûrement arrivé aussi, de dire, ça, c'est pas mon problème. Écoutez, moi, je reste de ce côté-ci de la rue parce que si je vais de l'autre côté, il va m'appeler, il risque de m'appeler, je dois l'aider, ainsi de suite. Bien aimé, on joue pas aux hypocrites, on est tous des êtres humains, hein. À moins que vous sortiez jamais de votre maison, quand vous rencontrez des gens, il y a des gens, finalement, qui ont besoin d'aide, hein. Surtout dans la société dans laquelle on vit, qui est remplie de personnes, finalement, qui ont besoin d'aide. Il a commencé à rationaliser, c'est-à-dire, si vous préférez, à raisonner en se disant peut-être comment savoir si cet homme est d'origine juive ou d'origine païenne. Parce que si c'était un Juif, il était obligé de venir en aide, de l'aider. Parce qu'un prêtre se devait d'aider un Juif et il devait alors faire demi-tour pour le ramener à Jérusalem. Mais si c'était un gentil, il n'était pas obligé de l'aider. Dommage, c'est peut-être dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir si cet homme était Juif ou non. Mais faux, bien-aimé. Si c'est un Juif, il est converti, il est circoncis. Les deux fils d'Abraham ont été circoncis. Isaac et l'autre, c'est Ismaël. Alors, un Juif, un Arabe. Et je ne pense pas qu'il y avait un Arabe qui passait sur cette route-là de Jéricho cette journée-là. Mais bien-aimé, il ne voulait pas s'en occuper. Il ne voulait pas. Il avait juste à le tourner et dire, « Ah oui, c'est un Juif, je dois lui donner un coup de main. » Mais il ne voulait pas savoir si c'était un Juif ou un païen. Il a trouvé, il a commencé à raisonner et il s'est dit, « Non, moi, ce n'est pas mon affaire. » Alors, il continue à raisonner. Il s'est dit aussi peut-être que je ne le connais pas, moi. Je ne connais pas cet homme-là. Si je m'approche de lui, que je le touche et qu'il est mort, non seulement selon la loi, je serai considéré comme étant impur pendant 7 jours, mais je devrais me purifier et brûler mes vêtements. Ah, il n'y en est pas question. Et il continue à raisonner en se disant, peut-être, si cet homme vient d'être attaqué et volé, cela me rappelle qu'il y a des voleurs et des meurtriers qui se trouvent dans le secteur. Si je reste dans les parages, je risque moi aussi de me faire tabasser, de me faire voler ou de même, et même tuer. Je ferais peut-être mieux de déguerpir le plus vite possible. Et Jésus dit, il traversa de l'autre côté de la route et il s'éloigna, poursuivant son chemin comme s'il n'avait rien vu. Jésus continue au verset 22, « De même, un Lévite arriva sur place et l'aperçut. Et avec lui, l'espoir renaît, bien-aimé. » Un Lévite était quelqu'un qui assistait le prêtre dans ses fonctions. Peut-être qu'il travaillait pour ce prêtre qui venait juste de quitter les lieux. Il avait probablement regardé l'homme étendu par terre et il s'était lui aussi mis à raisonner. Et rien ne nous défend de penser que s'il s'est peut-être dit, bien, je sais que le prêtre est passé par ici, qu'il n'a pas aidé cet homme, et s'il ne l'a pas aidé, c'est qu'il savait peut-être quelque chose sur celui-ci que moi je ne sais pas, et s'il ne s'est pas arrêté, pourquoi moi devrais-je alors m'arrêter? Jésus ne nous dit pas pourquoi le prêtre et le Lévite traversèrent de l'autre côté et poursuivirent leur route. Cependant, nous pouvons penser qu'ils se sont mis à réfléchir, à raisonner, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de réfléchir, oui, afin de trouver une bonne raison ou une bonne excuse pour laquelle ils ne devaient pas aider cet homme. Et après avoir bien réfléchi, ils avaient décidé, bien aimé, de poursuivre leur chemin comme s'ils n'avaient rien vu, ni vu, ni connu. Si vous aviez écouté cette histoire il y a 2000 ans, vous auriez parié que tout ce que vous aviez... Vous auriez parié que tout ce que vous aviez, que l'une de ces deux personnes aurait pu vous aider, aurait aidé cet homme baignant dans son sang, parce que c'était des religieux qui étaient supposés être connectés directement avec Dieu. Ils venaient probablement de quitter le temple de Jérusalem et ils avaient changé de côté parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas être impliqués dans ce genre d'histoire. Si vous aviez été présent au moment où Jésus racontait cette histoire, vous vous seriez peut-être dit que ce prêtre et ce Lévite ne valaient pas mieux finalement que les malfaiteurs qui avaient volé, battu et presque mis à mort ce pauvre homme. Il est évident que cet homme méritait d'être aidé et qu'on s'occupe de lui, mais ni le prêtre, ni le juif, ni le Lévite avaient jugé bon de lui venir en aide. Et dans Proverbe chapitre 3, 23, verset 27, 3, 27, écoutez ce qu'il est écrit. « Chaque fois que vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. » Car celui qui connaît le bien qu'il devrait faire, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 27-17, je vous invite à l'apprendre par cœur parce que c'est un verset qui était puissant. Écoutez ce qu'il dit. « Car celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas, se rend coupable de péché. » Et souvent, il y a des gens qui utilisent la grâce dans certaines de nos églises pour justement pouvoir pécher librement. Dieu pardonne tous les péchés. Présent, passé, futur, ben il n'y a pas de problème. Hein? Et c'est pour ça que Jean va écrire sa première épître, c'est que heureusement qu'il était, demeuré en vie, parce que l'Église avait commencé à fonctionner sur la licence, la grâce à bon marché. On peut pécher, Dieu nous a pardonné, à la croix, il nous a pardonné nos péchés en passé, présent et futur, donc on peut mener la vie qu'il veut. Et à un moment donné, vous savez, vous lirez le verset chapitre 2, hein, il dit que celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Il n'est pas exigeant, en fait. Il n'est pas exigeant. Puisqu'on a l'Esprit de Christ en nous, il ne nous demande pas quelque chose qui est impossible. Celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Et Dieu ne nous mettra pas un fardeau, ne nous demandera pas d'accomplir une tâche que nous ne sommes pas capables de faire. C'est-à-dire, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas se rend coupable de péché. Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Il y a une condition à la promesse de Dieu, bien-aimés. Pourquoi Dieu aurait de la compassion pour vous si vous n'avez pas de la compassion pour vous? Ça s'adresse aux croyants ici, hein? Dieu n'exigerait pas ça d'un non-chrétien. Mais ça s'appelle. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'on a quelqu'un qui habite en nous par son esprit et qui nous donne les capacités de le faire, bien-aimés. Quand on est de nouveau, bien-aimés, vous savez ce qu'on reçoit? Moi, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur, c'est comme si c'était hier, moi. Il est aussi présent dans ma vie qu'hier, bien-aimé. Moi, c'était la rencontre, j'ai rencontré ma femme, ça m'a béni, bien-aimé. Ouais. Mon cœur était remué, mais jamais comme Jésus a remué mon cœur quand je l'ai rencontré, bien-aimé. Ça a changé complètement ma vie. Je me demande si je serais encore en vie, moi, si je ne l'avais pas rencontré aujourd'hui. Et quand vous naissez de nouveau, bien-aimé, c'est-à-dire quand vous naissez de Dieu, c'est ça la nouvelle naissance. Première naissance, on naît d'un homme et d'une femme. La nouvelle naissance, c'est qu'on naît de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça naître d'en haut. Hein, le vrai terme, dans Jean, c'est naître d'en haut. C'est Dieu qui nous fait naître. Eh bien, bien-aimé, vous recevez les yeux de Jésus-Christ, bien-aimé. Vous voyez les gens à l'extérieur, vous commencez à les voir comme lui les voit. Perdus. Qui ne bénéficient pas encore de la grâce de Dieu. Et comme notre frère l'a dit tantôt dans sa présidence, notre tâche, c'est pas de rester assis dans nos églises à écouter des sermons, c'est d'aller à l'extérieur et parler de ce qui fait notre joie, notre bonheur pour l'éternité, bien-aimés. Ensuite, vous recevez la bouche de Jésus. Vous êtes capable de parler aux gens comme Dieu parlait à travers Jésus à son époque, aux gens de son époque, bien-aimés. Et troisièmement, vous recevez les oreilles de Jésus. Vous entendez les cris, vous entendez les larmes des gens, bien-aimés. Moi, mon église, quand j'ai été pasteur, pendant 20 ans dans la même église, on a fait pendant 15 ans de l'évangélisation. 15 ans. On faisait du porte-à-porte. Jamais personne ne nous a traité d'être témoin de Jéhovah parce qu'il y a une façon de se présenter aux portes. On était dans la rue, on n'avait aucun problème avec les gens. Et à chaque porte, pour encourager les gens d'aller faire un pas aux portes, ce que je disais à mes gens dans mon église, calculez que derrière chaque porte, il y a un drame qui se joue. Ça peut être quelqu'un qui est pris dans esclave de la boisson, esclave de la drogue, une femme qui est battue, quelqu'un qui est abusé sexuellement. Il y a toutes sortes de drames qu'on m'a raconté dans la rue, dans les portes. Il y a une façon de se présenter. Bien-aimé, pourquoi sur une seule présentation à la porte, moi, quand je discutais avec les gens et que je leur disais, écoutez, pour mes statistiques, je terminais avec ça, pour mes statistiques personnelles, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la plus grande souffrance qu'une personne peut vivre dans sa vie? La question, elle est générale. Mais vous êtes certain d'une chose. La personne qui va vous répondre, elle ne peut pas vous répondre avec quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle va vous parler d'une chose personnelle qu'elle a vécue. Et elle va me dire, mais moi, je crois sincèrement que quand un homme promet devant l'autel qu'il va être fidèle à sa femme, qu'il va passer sa vie avec lui, qu'il la laisse tomber, moi, je trouve que c'est une des pires trahisons que quelqu'un peut avoir. Et là, j'arrive, puis je lui dis, excusez-moi, je veux pas abuser de votre temps, je vous m'avais déjà accordé 5 minutes à la porte. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Elle me dit oui. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez vécue, que vous venez de me raconter? Ça pleure. Et d'autres, c'était de la boisson, d'autres, c'est quelqu'un qui a été abusé. Bien-aimés, si nous, on ne prêche pas l'Évangile, si on ne prêche pas le salut à leur souffrance, on va avoir des comptes à rendre à Dieu. Alors, je vais vous lire le passage. Galates chapitre 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème le péché, sa propre nature lui fera récolter la mort. » S'il sème la justice, eh bien, il récoltera la vie éternelle. Celui qui sème la mort, celui qui sème le péché, c'est celui qui vit contrairement à tout ce que Dieu nous demande de vivre. Et celui qui sème la justice, c'est celui qui s'applique à marcher en nouveauté de vie, comme Jésus-Christ nous demande. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec les baskets de Dieu. On va tous avoir à être jugés à la fin des temps. Oui, les chrétiens, ah, pas pour votre salut, vous avez eu votre salut. Mais vous allez passer au tribunal de Christ. Il y a deux tribunaux. Deux tribunaux. Vous allez avoir des rondes à compte, des comptes à rendre avec ce que vous avez fait, avec le don spirituel que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce don-là, bien-aimé? Je vais vous donner, vous voulez savoir si je divague, là, non? La parabole des trois talents, bien-aimé. La parabole des talents. Oui, vous lirez ça. C'est Jésus qui parle. Bien-aimé, bien-aimé, pourquoi l'Église de Jésus-Christ est dans cet état-là aujourd'hui? Parce qu'on a prêché que sur l'amour de Jésus depuis l'amour de Dieu depuis 50 ans, mais on oublie la justice de Dieu, bien-aimé. Il y a un équilibre entre les deux, hein? Vous pouvez raconter à n'importe qui que Dieu les aime. Si vous ne parlez pas du péché, eh bien, ils peuvent accepter le Seigneur, mais ils ne sont pas convertis, bien-aimé. Actes chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » On doit avoir d'abord la repentance et après ça, plus la conversion, ça va égaler péché effacé. Et je rencontre des gens dans des églises qui me disent qu'on n'a plus besoin de parler de la repentance puisqu'on est sur la grâce. Eh bien, ça va en contradiction avec un des premiers messages évangéliques, celui de Pierre. « Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La repentance, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, c'est reconnaître qu'on a désobéi à la parole de Dieu et qu'on devient devant le trône de Dieu complètement dénudé en lui disant « Seigneur, je te demande pardon, j'ai désobéi à ta loi. » Et la conversion, c'est quoi? Pour montrer qu'on s'est vraiment repenti, eh bien, c'est le changement de vie, bien-aimé. C'est le changement de vie. Moi, ce que j'aimais bien quand j'étais au Québec, on est un des seuls pays au monde, en tout cas le Canada, qu'on a accepté, on n'a pas été capable de choisir, nos politiciens n'ont pas été capables de choisir. Si on devait adopter la règle, les mesures anglaises ou les mesures métriques. Et on a accepté les deux. C'est intéressant. Fait qu'on avait on appelle ça une verge, un mètre en bois, là, vous savez, pour les couturières. Là, souvent, on utilise ça pour couper. Et d'un côté, c'était finalement les mesures métriques. Et quand tu tournais, c'était les mesures anglaises. Mais ça ressemble à la conversion parce que c'est ça une conversion. Tu veux savoir ce que c'est que les mesures anglaises en métrique, tu tournais. Mais c'est la même chose quand on parle de la Bible, tu te convertis, c'est que tu as un changement complet de ton intelligence qui se fait. Tu vois les choses comme Dieu les voit à travers Jésus-Christ. Et là, on devient actif pour l'avancement du royaume de Dieu, bien-aimé. N'oubliez pas, ce qui est dangereux, c'est quand une église, on entend parler dans une église qu'on n'est qu'une famille. Mais plus que ça, l'église. On est une famille, on est un peuple et on est un royaume, mais les trois doivent être prêchés équilibrement. Ouais. Famille, peuple et un royaume. On va tous faire partie du même royaume, on fait tous partie de la même famille, on fait tous partie du même peuple, mais Jésus-Christ doit être proclamé. Vous dites « Amen » à ça. C'est pas fort, ça. Ouais, qui est d'accord avec ça, là? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu nous donne toujours l'occasion de démontrer si nous sommes de bons prochains pour les autres. Mais lorsque nous rencontrons quelqu'un dans le besoin et que nous commençons à raisonner comme ce prêtre et ce lévite, nous risquons non seulement de nous demander pour quelles raisons nous devrions nous impliquer, mais trouver toutes sortes d'excuses pour ne rien faire en se disant, par exemple, que quelqu'un d'autre va le faire à notre place. À chaque fois que nous raisonnons, nous risquons de réagir comme ce prêtre et ce lévite, c'est-à-dire rassurer notre conscience et traverser de l'autre côté de la route. Deuxièmement, deuxième point, lorsque nous rencontrons quelqu'un dans le besoin, la seule question que nous devrions nous poser en tant que chrétien est la suivante, que ferait Jésus à ma place? Je vais vous donner, il y a à peu près 50 ans, il y a un livre qui avait été écrit, « Que ferait Jésus à ma place? » Quelqu'un a lu ce livre-là? Oui? Ça frappe ce livre-là, hein? Hein? Si on demandait aux gens de poser cette question-là en sortant d'ici, à la fin de la semaine, on se poserait la question, on se rencontrerait ensemble pour savoir combien il y en a qui ont tenu le coup sur cette question-là. Je vais vous donner deux exemples dans cette église-là. C'est un pasteur, il est lundi matin, le pasteur, il est déjà à son bureau, il est en train de préparer sa prédication pour le dimanche suivant, parce que, imaginez, son église, c'est quand même 350 personnes, mais tous des gens qui portent cravate et veston, des gens, finalement, qui regardent lequel qui est mieux habillé ou moins bien habillé que les autres, ils se regardent tous, le nombril, hein? Ouais. Et là, ça frappe à sa porte, ce lundi matin-là, il y a un monsieur qui vient, on doit dire honnêtement, hein, c'est un... c'est un gars qui est habillé comme un ivrogne. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à marcher. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à parler. Et finalement, il demande un peu la charité au pasteur. Et le pasteur, ben, il dit, écoute, j'ai vraiment pas le temps. Il dit, écoute, je me suis mis des objectifs pour commencer mon message un matin. Je vais arriver là. Il dit, malheureusement, il dit, j'ai pas le temps de t'aider. Alors, monsieur, il est parti. Et le dimanche matin, ben, le pasteur, il est derrière la chaire. Et il est en train de, il commence à prêcher. Et qui rentre, la porte s'ouvre, et c'est ce monsieur qu'il avait rencontré le lundi, qui titube, et qui avance péniblement jusqu'en avant. Et arrivé en avant, il se retourne vers les gens. Et lui, il explique finalement ce qui est arrivé le lundi. Et il dit, vous vous en souvenez peut-être pas, mais j'ai frappé à presque toutes vos portes durant la semaine. Et personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Il dit, ça faisait déjà 15 jours que je ne mangeais pas. Et il vient pour continuer à parler, il s'effondre, il meurt devant tout le monde. Et le pasteur, il est vraiment affecté par ça. Dans son sermon, il raccourcit son sermon, puis il dit, écoutez, j'aimerais maintenant rencontrer, j'aimerais vous relever un défi, vous inviter à relever un défi. Et ceux qui sont intéressés, tout de suite après le culte, vous venez dans la sacristie en arrière, dans la salle en arrière, et ils vont en parler. Il dit, j'aimerais que ceux qui sont intéressés à se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Eh bien, viennent à cette réunion-là. Et vous savez, ça va loin, hein? Ça va même jusque quand on regarde la TV, se dire, est-ce que si Jésus était à ma place, est-ce qu'il écouterait cette émission-là? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il regarderait certains films vidéo? Il y a un prix à payer, bien-aimé. Le salut, il est gratuit, mais la sanctification, il y a un prix à payer, hein? Ah oui, hein? Alors, il y avait un homme d'affaires qui avait justement un propriétaire d'un journal. Lui, il a dit, moi j'ai pris cette décision-là, je vais commencer à feuilleter mon journal une par une, une page par page. Ah, ça, ça ne veut plus apparaître, ça non plus. Il tombe sur la page des annonces roses, hein, vous appelez ça les vitrines, ici, tout le tralala, vous savez ce qui entoure tout ça, prostitution et tout ça, qui sont annoncés maintenant ouvertement dans les journaux. Alors, il dit, non, ça, c'est terminé. Oui, mais vous savez comment ça faisait vivre, cette page-là? De journaliste, ça faisait vivre. Et là, il doit rencontrer ses journalistes pour leur dire, écoutez, dorénavant, cette page-là, on peut... Oui, mais patron, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il dit, non, moi, j'ai pris une décision que doit faire Jésus à ma place. Et il dit, Jésus, je suis convaincu que lui ne mettrait pas ça en tant que propriétaire dans les journaux. Il y a eu des combats, ce gars-là. Il y a une femme qui chantait en avant, là, un peu comme les nôtres là, ce matin. Une voix extraordinaire, elle aurait pu faire l'opéra, elle, hein? Oui. Et là, elle épatait la galerie de la presse dans l'église. Quelqu'un super distingué, hein? Et elle s'est posé la question aussi, que ferait Jésus avec le talent que j'ai? Il sortirait dehors, puis irait dans les quartiers pauvres, puis il chanterait. Il utiliserait ma voix pour sa gloire. Et c'est ce qu'elle a fait. Les autres qui ont participé, qui avaient pris cette décision-là, ils ont dit, écoute, on sait qu'il y a des pauvres dans la ville, que ferait Jésus à notre place? Ben, peut-être qu'ils serviraient la soupe. Ils sont partis, ils sont allés servir de la soupe. Il y a eu un réveil dans cette église-là, bien-aimé. Ça a amené à planter des églises un peu partout dans la ville. Il y a eu un réveil extraordinaire dans cette ville-là. Maintenant, essayez, prenez cette décision-là, vous tout seul. Engagez-vous pas publiquement si vous êtes prête, mais pas prête. Mais essayez-le, juste dire, écoute, tiens, j'essaye ça, moi, pendant toute la journée. Que ferait Jésus à ma place? Aujourd'hui puis demain. Vous allez voir que c'est difficile. Vous allez voir que c'est difficile? Ouais. Que ferait Jésus à ma place demain matin quand je vais m'élever? Il va quand même prendre un temps avec le Seigneur, hein? Que ferait Jésus à ma place quand il va, avant de se coucher, il prendrait quand même un temps avec le Seigneur, hein? Ah oui, hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais par contre, plus vous allez vous poser la question, plus vous allez mettre ça en pratique, plus vous allez voir Dieu agir avec puissance, non seulement dans l'Église, mais aussi dans vos vies. La question, c'est, êtes-vous prête à essayer de le faire? Parce qu'en Jésus-Christ, vous avez les capacités en lui de le faire. Maintenant, en posant cette question-là, Dieu va mettre en lumière, et en lisant ses Écritures, Dieu va mettre en lumière ce que vous devez abandonner pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers vous, bien-aimés. La grande majorité des gens qui se trouvaient là et qui écoutaient cette histoire que Jésus racontait devaient se dire que cet homme était probablement en train de mourir et que personne avait cherché à lui venir en aide. Et puis l'espoir renaît dans la foule lorsqu'ils entendent Jésus prononcer au verset 33 ce petit mot. Mais ce petit mot, c'est « mais ». C'est un petit mot, mais il veut dire beaucoup de choses. Et certains ont peut-être pensé que Jésus s'apprêtait à dire qu'il y avait sûrement un bon juif qui allait secourir ce pauvre homme. Imaginez lorsqu'ils vont entendre le reste, la suite de la phrase, au verset 33. « Mais un Samaritain! » On aurait pu entendre, bien aimé, une mouche, voire même des gens avaler leur salive de travers, parce que personne n'était plus détesté, plus méprisé, plus jugé qu'un Samaritain. Si vous vouliez vraiment insulter quelqu'un, bien aimé, vous aviez... Si vous aviez vraiment à insulter quelqu'un, c'était et le juger, c'était de l'appeler, de le traiter de Samaritain. Et si vous voulez vraiment, je répéterai pas ça. Hein. D'ailleurs, c'est de cette façon-là que Jésus, à un moment donné, les pharisiens avaient traité Jésus. Jésus, Jean chapitre 8, verset 48, lorsqu'il lui avait dit, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? » Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit, bien-aimé. De dire que les œuvres qui sont de Dieu, on les colle au diable, bien-aimé. C'était une double gifle envoyée dans la figure de Jésus en lui disant qu'il n'était pas seulement un Samaritain, mais qu'il était aussi possédé. Imaginez à quoi devait penser ce docteur de la loi qui avait voulu piéger Jésus lorsque celui-ci a prononcé le mot « Samaritain ». Il n'avait plus le choix, il devait écouter, lui, cette histoire jusqu'au bout, et entendre dire de Jésus à partir du verset 33, « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion. » C'est ce qui distinguait le pharisien de tous les gens qui étaient là, bien-aimés. Vous savez pourquoi l'Église, elle piétine sur elle-même aujourd'hui? Parce qu'elle manque de compassion, bien-aimés. Parce qu'elle ne voit pas les gens comme Dieu les voit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Bien-aimé, la dernière personne qu'un Juif pouvait s'attendre à recevoir de l'aide, c'était bien de la part d'un Samaritain. Jésus va même ajouter que ce Samaritain va non seulement aider cet homme laissé pour mort, mais qu'il va aller au-delà de ce à quoi on aurait pu s'attendre en démontrant être un bon prochain pour cet homme qui avait désespérément besoin d'aide. Ce que fait ce Samaritain est tout simplement incroyable. Il chargea l'homme sur le dos de son âne, il va l'amener en territoire juif, mais non seulement en territoire juif, mais dans une ville juive et dans une auberge juive, et ce, au péril de sa vie, étant donné que, dans des circonstances normales, non seulement un Samaritain ne pouvait pas mettre les pieds dans une synagogue, mais aussi dans une ville juive. Essayez d'imaginer que vous êtes un Samaritain, que vous amenez dans une ville juive avec un Juif à moitié mort sur le dos de votre âne. Comment pensez-vous que les gens réagiraient? Difficile à dire, n'est-ce pas? Pourtant, vous risqueriez d'y laisser votre peau. Pour couronner le tout, Jésus dit au verset 35 que le lendemain avant son départ, le Samaritain sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste en lui disant de prendre soin de lui. Et ce qu'il dépenserait en plus, il lui rendrait en son retour. Bien-aimé, en revenant seul dans cette ville pour prendre des nouvelles de l'état de santé de cet homme qu'il avait secouru, ce Samaritain risquait sa vie de revenir seul. Mais voilà, c'était l'état de santé de cet homme qui le préoccupait le plus et non pas le sien, non pas son état de santé à lui. Bien-aimé, cet homme au bord de la route fut contraint de recevoir de l'aide du Samaritain parce que le prêtre et le lévite l'avaient ignoré. N'est-il pas logique de dire que lorsque nous nous retrouvons dans une situation désespérée, nous n'avons pas à nous soucier de l'apparence de notre prochain, mais remercier le Seigneur d'avoir placé ce prochain sur notre chemin. S'adressant au docteur de la loi, Jésus lui dit au verset 36, « À ton avis, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » Je me mets à la place de ce pauvre docteur de la loi. Il devait se demander ce qu'il devait répondre à Jésus. Et après avoir pris le temps de réfléchir, il dit à Jésus au verset 37, « C'est celui qui agit avec bonté envers lui. » Que va lui répondre Jésus? « Va et toi fais de même. » Finalement, la question que le docteur de la loi avait posé à Jésus ne visait pas de savoir qui était son prochain, parce que là, cela laissait sous-entendre qu'il y avait certaines personnes qui étaient nos prochains et d'autres qui ne l'étaient pas. Cette question par le docteur de la loi laissait supposer ou laissait sous-entendre que si vous étiez un hétérosexuel, vous étiez mon prochain, et que si vous étiez un homosexuel, vous ne l'étiez pas. Cette question laissait sous-entendre que si vous étiez blanc, vous étiez mon prochain, et que si vous étiez noir ou vice-versa, vous ne l'étiez pas. Cette question laissait sous-entendre que si vous êtes riche ou pauvre, vice-versa, vous êtes mon prochain et que si vous êtes pauvre, vous ne l'êtes pas. Jésus venait de faire réaliser au docteur de la loi bien-aimé qu'il avait posé la mauvaise question et que la bonne question à poser était la suivante. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, qu'est-ce que je vois? Voilà la vraie question à se poser. Voilà pourquoi nous disons que chaque détail de cette histoire racontée par Jésus est important. Être le prochain de quelqu'un n'a rien à voir avec sa nationalité, avec sa popularité, avec la couleur de sa peau ou avec sa croyance religieuse. Laisse sous-entendre ici Jésus. Il s'agit avant tout de ne pas se limiter à faire en sorte que notre prochain se limite seulement aux besoins de ceux qui pourraient nous être utiles dans la vie. Car nous sommes le prochain de tous ceux qui sont dans le besoin, dit Jésus. Bien-aimés, le prêtre, le lévite et le samaritain ont eu l'occasion de venir au secours de cet homme. Qu'est-ce qui a fait que le samaritain s'est arrêté lorsque le prêtre et le lévite ont poursuivi leur route? Je le répète encore, c'est la compassion, bien-aimés. C'est la compassion qui a fait bouger Jésus. Rappelez-vous, il était ému de compassion devant la foule qui était sans berger. Et pour avoir une compassion pour les gens, il faut d'abord que ça soit précédé par la passion des âmes, bien-aimés. Sinon, vous n'avez pas de compassion à part de vos enfants, vous n'aurez pas de compassion presque pour personne. Facile de dire à quelqu'un « je t'aime », hein, mais est-ce que ça résonne ici? Facile, ça. « Ah, je t'oublierai jamais. » Mais c'est pas ça, la compassion. En tant que croyant, nous sommes amenés à côtoyer des milliers de personnes blessées par la vie, des enfants maltraités, des mères qui se prostituent pour nourrir leurs enfants. Moi, j'ai vu ça quotidiennement à Liège. Hein. Je voyais des mères. Bon, je me promenais pas souvent là, mais ça arrivait qu'à telle heure, j'amenais ma fille à l'université et je devais passer sur cette rue-là. Eh bien, je voyais les mères qui sortaient de l'école après avoir amené leurs enfants aux primaires et qui, finalement, ben avaient la jupe ici. Et là, ben moi, j'ai jamais porté de jupe, hein, donc, mais qui roulaient pour que ça arrive à peu près jusqu'ici, quoi. Hein. Et qui allaient, je les voyais sur le coin de la rue qui étaient en train de vendre leur corps, quoi, pour être capable d'arriver à la fin du mois, quoi. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il y a des gens comme ça dans la rue? Ça existe, hein? Nos gouvernements font ce qu'ils peuvent, hein? Mais rien n'est impossible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Et Dieu, c'est pas que Dieu a besoin de nous, c'est une grâce qu'il nous fait de participer à l'avancement de son royaume. Vous êtes amen à ça. Quel regard portons-nous sur ces drames? Un regard indifférent ou un regard de compassion qui nous pousse à l'action comme ce Samaritain? En tant qu'enfant de Dieu, notre regard sur les autres devrait être celui que Jésus avait, en nous posant la question « Que ferait Jésus à notre place? » N'oublions pas que Jésus raconte cette histoire afin de nous rappeler que notre prochain est encore une fois toute personne qui est dans le besoin. Nous devons l'aimer, et ce, peu importe qui il est, peu importe le risque que nous prenons, et peu importe à quel point cela nous met mal à l'aise. Bien-aimé, je me suis occupé des personnes, moi, qui sentaient très mauvais. Ouais, très mauvais. Très mauvais, les gens du monde. Mais je connais des gens, par contre, en tant que pasteur, je connais des chrétiens, moi, qui se disaient chrétiens. Parce qu'ils vivaient comme tout le contraire de ce que Dieu demandait, que dans leur cœur, ils puaient, ils sentaient encore plus mauvais que cette personne-là à l'extérieur, quoi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Quand on sème des patates, on ne ramasse pas des carottes à la fin de l'automne. On ramasse ce qu'on a semé, bien aimé. Et le verset, il est clair. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner, je me parle à moi. Hein. Je vous l'ai déjà dit ici, moi, je ne suis pas capable de prêcher ce que je ne mets pas en pratique dans ma vie. Je ne suis pas un hypocrite, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Moi, je vous donne ce que moi, je vis, le Seigneur. Ma femme, elle est là, je pourrais témoigner, elle pourrait témoigner. Mais c'est important. C'est important, on va avoir des comptes à rendre à Dieu, bien-aimé. Pas pour votre Seigneur, encore une fois, j'ai dit, salut, c'est réglé, c'était réglé une fois pour toutes à la croix. Mais par contre, Dieu vous a donné, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un don spirituel et vous allez avoir à répondre de ce talent spirituel que Dieu vous a donné. Relisez la parabole des talents, bien-aimé. Ce qui faisait que ce Samaritain avait vu l'autre comme étant son prochain, c'est la place que Dieu occupait dans son cœur. Jésus voulait montrer à ce docteur de la loi que le véritable amour, c'est-à-dire celui qui vient d'en haut, vous amène à un point tel, bien-aimé, que vous ne pourrez pas vous empêcher d'être un bon prochain pour quiconque est dans le besoin. Imaginez un instant que vous êtes cette personne étendue sur le bord de la route qui est laissée pour morte. Vous voyez le prêtre et le lévite qui passent et vous vous dites, « Ah, vous-même, oh, merci, Seigneur! » Et puis vous voyez les deux serviteurs qui traversent la route et qui s'éloignent, bien-aimé. Et puis un Samaritain arrive. En tant que Juif, vous auriez préféré peut-être mourir plutôt que d'être aidé par cet homme. Mais vous n'avez pas le choix si vous tenez à la vie. Vous êtes à moitié mort, il n'y a aucun autre moyen d'éviter ce Samaritain. Vous voyez celui que vous considérez comme étant votre pire ennemi être ému de compassion, en train de panser vos blessures, vous mettre sur son âne et vous amener dans une auberge afin que vous puissiez être rétabli. Au lieu de nous poser la question qui est le docteur de la loi dans cette histoire, ou qui nous sommes dans cette histoire, il est préférable de se demander qui est Jésus dans cette histoire. Si Jésus représente quelqu'un dans cette histoire, n'est-ce pas le bon Samaritain? Celui qui vient réellement au secours de l'homme, laissé pour mort, risquant ainsi sa vie, en l'aidant, en devenant impur s'il le touchait, se fichant de ce que les gens allaient penser, parce qu'il savait que c'était la bonne chose à faire. Rappelons-nous que c'est la question posée au début par le docteur de la loi qui a déclenché toute cette conversation avec Jésus, celle de savoir comment hériter de la vie éternelle. À un expert religieux qui pensait savoir quoi faire pour recevoir la vie éternelle, Jésus lui a raconté l'histoire d'un homme qui ne pouvait absolument rien faire pour se sauver et qui a dû finir par compter non pas sur un prêtre ou sur un lévite pour être sauvé, mais sur un étranger, un Samaritain. Il n'aurait jamais accepté l'aide du Samaritain s'il avait pensé pouvoir faire quelque chose pour se sauver lui-même. Il avait dû se retrouver dans une situation complètement désespérée pour ne pas avoir d'autre choix que celui d'accepter l'aide du Samaritain. Que fallait-il alors dire à cet expert religieux pour qu'il se rende compte qu'il ne pouvait rien faire pour être sauvé, pour gagner la vie éternelle ou hériter la vie éternelle? Que devait-il entendre pour comprendre qu'aucune religion ne pouvait effacer un seul de ses péchés et lui garantir la vie éternelle? Car seul Jésus pouvait non seulement sauver cet expert religieux, mais il était aussi le seul qui peut nous sauver du fossé dans lequel nous nous trouvions par rapport à Dieu avant de le connaître. J'aime cette histoire parce qu'elle nous rappelle non seulement la grâce et la pitié que Dieu a manifestée envers nous à travers la personne de Jésus-Christ un jour, mais parce qu'elle nous rappelle aussi jusqu'à quel point Dieu nous aime et que nous sommes appelés à manifester cet amour pour les autres. Est-ce que vous savez une chose? Est-ce que vous savez qu'on a plus de difficultés à oublier le tort que les autres nous font que Dieu d'oublier nos péchés? Est-ce que vous savez qu'on a plus de difficultés à pardonner aux autres, ceux qui nous ont fait du mal, que Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, bien-aimé? Quel Dieu extraordinaire nous avons! C'est vrai que Dieu est amour, bien-aimé. Mais il ne faut pas se moquer de lui, Dieu est juste aussi. Et la Bible est claire, il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Ça, c'est le Dieu qu'on sert, bien-aimé. Ce n'est pas un dictateur, parce qu'il nous donne la liberté de faire ce qu'on veut. Il nous donne la liberté de dire ce qu'on veut. Mais si on lui appartient vraiment, on aura des comptes à lui rendre pour ça, bien-aimé. Moi, ça me fait rire dans des campagnes d'évangélisation quand je vois des chrétiens qui doivent porter un T-shirt pour être, que ce soit marqué « Jésus est avec moi » puis dans le dos, « Je suis chrétien ». Vous savez comment le premier gars qui m'a parlé du Seigneur m'a attiré, lui? Il m'a pas parlé du Seigneur, il m'a pas parlé de l'Évangile. Ses yeux, bien-aimé. Ses yeux dégageaient la vie. Ses yeux dégageaient la vie d'en haut, bien-aimé. Et il y a une petite voix qui me dit en moi-même, « Ce que tu cherches depuis toujours, Jacques, lui, il l'a. Et c'est gratuit. » Bien-aimé, quand les gens nous rencontrent, ils devraient voir qu'il y a quelque chose de spécial, bien-aimé. Si on rencontre, quand on rencontre des gens, eh bien, ils devraient voir que notre sujet de conversation, eh bien, il est sur quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser tomber le reste, bien-aimé. Mais au moins, d'être capable de parler de Jésus quand l'opportunité se présente, bien-aimé. Vous êtes amen à ça. Bon, en terminant. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas connaître Dieu en écoutant des sermons sur la connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu en écoutant des sermons sur la connaissance de Dieu. Oui, vous ne pouvez pas connaître Dieu en lisant des livres sur la connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un avec qui vous ne passez pas du temps, car voyez-vous, le connaître, c'est l'aimer. L'aimer, c'est lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est lui obéir. Lui obéir, c'est être béni. Et être béni, c'est être une bénédiction pour les autres. Bien-aimé, celui qui lit pas sa Bible, hein, c'est très difficile pour lui de marcher. Parce que c'est dans la Bible qu'on apprend à connaître Dieu. C'est dans la Bible qu'on apprend à connaître la puissance de Dieu. C'est dans la Bible qu'on apprend à connaître les attributs de Dieu parce qu'on nous donne des exemples de ce qu'il a fait, bien-aimé. C'est pas en faisant juste une méditation quotidienne le matin qu'on finit par connaître Dieu, bien-aimé. Tout se suit dans la Bible. Et on a besoin de lire notre Bible, bien-aimé. C'est une lampe. C'est une lampe, n'est-ce pas? C'est aussi un marteau, bien-aimé. savez, ce qui me fait rire, moi, c'est quelqu'un, on a des chrétiens dans nos églises, on a discuté d'entendre un sermon de 50 minutes, mais quand il arrive le mondial, il y a deux matchs en ligne hein, qui durent 2h30, il n'y a pas de problème. Hein. La caisse de bière, les chips, là, et puis il n'y a pas de problème. Allez, il appelle ses copains en plus. Hein. Mais pour entendre la parole, hein. Ouais. Dis-moi où est ton cœur et je te dirai quelles sont tes priorités dans ta vie. Tout commence par le fait de le connaître. Et encore une fois, vous ne pouvez connaître quelqu'un sans passer du temps avec lui. Comment pouvez-vous connaître votre mari ou votre femme? C'est en passant du temps avec lui ou avec elle. Le problème de nos jeunes couples aujourd'hui, c'est ça le problème. Hein? Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Hein? Parce qu'elle, elle a son trip de sport, elle a son trip de rencontre avec ses femmes, puis lui, ben, il a ses rencontres avec sa bande de copains. Ils font rien ensemble. Je connais même des couples qui participent séparément en vacances, sont mariés. Et qui connaissent finalement plus les rencontres qu'ils ont avec les autres qu'avec leur femme ou leur mari. Mais c'est la même chose avec Dieu, bien-aimé. Comment voulez-vous être attaché, aimer Dieu de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée? Mais c'est en apprenant à le connaître, c'est en vivant avec lui, bien-aimé, à travers sa parole. Si tout ce que vous voyez, ce sont les œuvres de Dieu, vous êtes simplement ébloui par les œuvres de Dieu, mais vous ne lui appartenez pas, bien-aimé, vous ne le connaissez pas. Pourquoi le peuple d'Israël, pourquoi il y avait juste Josué, Caleb et Moïse qui craignaient Dieu? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Pourquoi les Israélites, pendant 40 ans, quoi, pendant 40 ans, bien-aimé, ils ont renié Dieu à chaque fois. Et pourtant, aussitôt qu'avait l'épreuve était passée, on louait le Seigneur, oui, on ne recommencera plus. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient les œuvres de Dieu. Ils avaient été témoins, mais ils ne connaissaient pas Dieu dans leur cœur, bien-aimés. Lorsque vous connaissez Dieu, vous connaissez les voies de Dieu. Lorsque vous connaissez le cœur et l'esprit de Dieu, lorsque Dieu vous parle face à face dans sa parole, comme il a parlé à Moïse, alors quel bonheur de connaître Dieu infiniment. Écoutez, vous n'êtes pas obligé, mais je vous invite à pencher votre tête en terminant. On va terminer dans la prière. Je vous invite à courber la tête et à fermer les yeux. On va prier. Dans un moment de recueillement. Il y a peut-être dans cette salle ce matin certains qui se demandent quelle est la première étape pour connaître Dieu intimement. Eh bien, la première étape pour connaître Dieu intimement, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. De lui demander d'entrer dans votre cœur, de pardonner vos péchés et de vous sauver du jugement à venir. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, je vous invite à lui demander d'entrer dans votre cœur dès maintenant en priant, en faisant cette prière. Vous la faites silencieusement dans votre cœur. Seigneur, je prends conscience ce matin que j'ai besoin de toi et je veux te connaître intimement, comme ce fut le cas pour Moïse, Josué, Caleb, David et tous les autres, y compris ceux de notre époque. Mon cœur crie après toi, ô Dieu. Je reconnais avoir péché, je te demande non seulement de me pardonner, mais plus encore, je veux ta présence dans ma vie et je veux savoir que je vivrai pour toujours avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi sur cette croix. Merci d'avoir payé la dette de mon péché avec ton sang. Merci d'être ressuscité des morts. Tu as promis de me sauver. Et Seigneur, je te demande dès maintenant de me sauver. Que toute la gloire te revienne. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois ce matin, pendant que les têtes sont fermées, on n'est pas ici pour se donner un spectacle, les têtes sont penchées, pardon, et les yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois de sa vie ce matin, je vous demande juste de lever la main et de la baisser. Juste de lever la main et la baisser. Seigneur, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, pour la première fois. Seigneur, je veux reconnaître que je suis pécheur et je reconnais que c'est seulement par le sacrifice que tu as accompli sur la croix que, Seigneur, je peux être lavé de mes péchés être effacés et, Seigneur, passer de la mort éternelle à la vie éternelle et revivre spirituellement avec toi. Je vais le demander une dernière fois. Je ne vais pas insister, je ne vais pas vous intimider. S'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois ce matin, simplement lever la main et la baisser. Simplement lever la main et la baisser. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, pour ce message, Seigneur, qui n'est pas facile à prêcher, qui n'est pas facile à entendre, mais Seigneur, c'est la vérité, parce qu'elle vient de ta parole. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ici dans cette Église. Je te demande, Seigneur, de faire progresser cette Église dans la connaissance et dans la foi de la personne de Jésus-Christ, le ressuscité. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous promener librement avec nos Bibles, de pouvoir lire les versions que nous voulons, et aussi d'avoir nos églises pignon sur rue, avec la liberté de nous rencontrer dimanche après dimanche et jour après jour. Reçois toute la gloire qui te revienne. Et c'est en Jésus que je t'ai prié de demander ces choses. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.